Comment tu te sens le jour où tu vends ta première prod? Parce que ça, c'est une grosse victoire. Tu fais quoi?
Mais en fait, nous, on est trop nuls pour célébrer des trucs. Franchement, on l'a célébré vite fait. Enfin, mes potes, ils étaient trop contents pour moi. Okay. Boum, une heure, on kiffe, truc, machin. Puis après, on retourne. Hein. Ouais, franchement, on y retourne, tu vois.
Oyez la popu, bienvenue sur Artisan d'Esprit, le podcast qui met en avant les personnes de banlieue qui font tout pour s'accomplir. Comprendre leur état d'esprit à travers leur parcours. Ici, tu trouveras des invités sincères, authentiques et sans langue de bois. N'écoute pas les conseils des gens. Écoute leur histoire. C'est maintenant sur Artisan de l'Esprit.
Oye oye, bienvenue pour le dernier épisode de l'année 2023 et je reçois Doomsy. Il est beatmaker, il a tout plaqué du jour au lendemain pour se lancer dans la musique. T'as certainement dû voir passer sa tête sur les réseaux en mode « je me donne un an pour rafler le disque d'or en tant que beatmaker ». Mais bon, tout se passe pas comme prévu évidemment. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi il a lâché un métier dans la pharmaceutique pour se lancer dans la musique. J'en dis pas plus, bonne écoute. Attends. Une petite et dernière info avant de partir. On a dépassé les 10 000 écoutes et franchement, ça fait plaisir. À la force de nos petits bras, avec vos partages et votre force à vous, merci pour les messages qui deviennent de plus en plus nombreux. Ça fait grave plaisir. Continuez à donner de la force. On fait tout seul, vous connaissez. Sans plus tarder, bonne écoute. Écoute, déjà, je suis content de te recevoir.
Merci pour l'invitation.
Merci d'avoir répondu. Déjà, c'est pas toujours facile d'avoir quelqu'un, surtout sur Insta, donc je suis content que tu aies répondu.
Oui, c'est normal.
Écoute, le concept, je te l'expliquais un peu en off. Mais je sais pas si t'as écouté un peu quelques épisodes. T'as écouté un peu?
Ouais, un petit peu.
Donc tu connais la question phare du début?
Ah, même pas,
t'as avancé direct?
Ouais, j'ai avancé.
Magnifique. Magnifique. Parce que souvent un peu perturbé, celle-là. La première question que je pose, c'est comment va ton cœur?
Ah. Mon cœur, bah, j'imagine qu'il va bien.
Ouais. T'imagines?
Bah ouais, si je suis devant toi, c'est que ça va.
Ah, parce que sinon tu serais pas venu?
Si mon cœur allait. Non, mais ça va, je me sens bien. Dieu merci, tout se passe bien pour l'instant. On travaille, on est en bonne santé, c'est l'essentiel.
C'est l'essentiel. Ouais. Elle est toujours un peu perturbante, cette
question. C'est une bonne question.
Merci. Doomsy, t'es un artiste, t'es notamment un beatmaker. On peut dire plus généralement aussi un créateur de contenu en vrai. Sur le réseau, où tu fais pas mal de choses.
Ouais.
Au-delà de la musique, tu fais des contenus notamment comme meilleur endroit pour d'être une meuf. Ou quelque chose de plus axé musique, c'est un TikTok par jour jusqu'à ce que Kershak pose sur un de mes sons.
C'était ça.
Ou aussi, moi je t'ai connu comme ça, c'est un an pour avoir ton disque d'or en tant que beatmaker. Donc t'avais expliqué que t'avais tout lâché.
Exact.
On va y revenir plus tard. Okay. Mais avant ça, moi, ce que j'aime bien, c'est comprendre l'environnement dans lequel t'as grandi. Donc, est-ce que tu peux nous raconter ta jeunesse, mais surtout à travers ton quartier?
Ok. Bon, moi déjà, je suis né dans le 13e arrondissement de Paris. Et puis, après, on a vite déménagé, tu vois. Je me suis vraiment bien installé dans le 12e arrondissement, près de Gare de Lyon, Le Drurolin, je sais pas si tu vois.
Ouais, ouais.
Et c'est là où j'ai fait mon enfance, c'est là où j'ai grandi, j'ai fait mes conneries, etc., tu vois. C'est là où j'ai vraiment grandi. Et mon enfance, ça, franchement, j'ai eu une enfance tranquille, normale, tu vois. Je viens pas de cité. Mes parents, ils m'ont bien élevé, j'estime.
Ouais.
Et l'éducation a été sévère, quand même.
C'est-à-dire?
L'éducation a été sévère, mais l'éducation, on va dire, à l'africaine.
Ah. Tu vois. T'es de quelle origine?
Je suis guinéen.
Ok.
L'éducation à l'africaine, tout passe par le travail, tu vois. Moi, ouais. c'était beaucoup ça. Si je voulais quelque chose, il fallait que j'ai des bonnes notes à l'école. Sinon, il n'y avait rien. Donc,
pas de play, pas de récompense.
J'avais pas de play, mais j'ai compris que même quand j'avais les bonnes notes, il n'y aurait pas, tu vois.
très bien. Ok. Et quelle première anecdote te vient à l'esprit quand je te pose cette question?
Quand tu me poses cette question, par rapport à mon éducation?
Éducation, même jeunesse en général.
Par rapport à la jeunesse, moi, les anecdotes qui me viennent à l'esprit, c'est mes bêtises un peu, hein, que je faisais au collège, parce que c'est là où vraiment j'ai compris que Mes parents, ils voulaient que je file tout droit et que je réussisse à l'école, tu vois. Mmh. J'étais quelqu'un de très naïf, moi, en fait, quand j'étais petit. Je me laissais embarquer rapidement dans des histoires. Et puis, comme je disais rien, je souriais tout le temps, tout allait toujours très bien. Tu sais, on mettait la faute sur moi, tu vois, c'était facile.
Ah, ok.
Voilà, donc...
Mais ça t'a pas endurci, ça, comme jeune homme?
Si, un petit peu, quand même.
Ouais.
Mais c'est après que j'ai compris, tu vois.
Ok.
Sur le moment, j'étais pas très conscient. Puis, il m'arrivait des gros bricoles, mais mes parents, ils voulaient vraiment que j'ai une éducation très...
Oh, très stricte, comme
très
tu
strict,
l'as dit.
Très stricte, tu vois, donc... Quand il m'arrivait, je dis la petite connerie, là, mon exclusion du collège en cinquième. Et ils m'ont envoyé dans un collège privé tout de suite, tu vois.
Ah, ils ont anticipé
le
truc.
Ouais, tout de suite, ils m'ont envoyé dans un collège privé. Après, là, j'ai filé tout droit.
Ok.
J'ai arrêté tout.
Et t'es arrivé dans quel collège?
J'étais dans le collège Paul Verlaine.
Ok.
Puis après, je suis allé au collège Saint-Pierre-Fourier, dans le 12e.
D'accord. Et du coup, j'imagine que c'est un changement quand même.
Ouais, changement.
Et comment tu te construis à travers ça?
C'était dur, hein. Il y avait déjà, moi je t'ai dit, je suis de confession musulmane.
Ouais.
Je sais pas si je l'ai dit, mais et là je suis arrivé dans un lycée privé, collège privé catholique, tu vois.
Wow, ok.
Bon, déjà il y avait ce petit, je sais pas, c'était étrange. Quand je suis arrivé, j'étais pas très à l'aise, tu vois. Donc forcément, quand tu rentres dans des milieux comme ça, tu t'associes à des gens qui viennent plus ou moins du même milieu que toi, tu vois.
Tu t'identifies, en fait.
C'est ça, tu vois. Quand t'es petit, tu cherches des codes similaires des trucs qui te ressemblent un peu, tu vois. Au début, en tout cas.
Ouais.
Donc, j'étais pas très bien. J'ai rencontré un pote à moi, Harris, avec qui tout de suite on s'est lié d'amitié et tout. Et maintenant, on est encore amis, tu vois. C'est mon frérot. Et puis après, une fois que j'étais à l'aise grâce à lui et tout, j'ai pu m'ouvrir. Puis ensuite, c'était terrible.
Okay,
j'ai passé des bonnes années là-bas.
Et ok, donc t'as filé droit du coup.
Ouais, après j'ai filé droit. Non, c'était strict. Hein. Ouais. Tu pouvais pas arriver avec un jean troué.
Ah ouais, à ce point.
Bah ouais, si t'avais un jean troué, tu portais une blouse ou alors on te renvoyait chez toi, tu vois.
Ok.
Deux minutes de retard, tu t'étais viré.
Ok.
Tu pouvais pas.
Donc discipline à fond.
Discipline à fond. Toutes les semaines, il y avait des DST, des contrôles. C'était sévère, c'était trop.
Et ouais, j'imagine que tout de suite ils t'ont mis une forme de pression quand même, parce que j'imagine que les autres là-bas, enfin moi où j'étais à l'école, on était facile la moitié à pas avoir la moyenne à chaque contrôle, tu vois. Toi, j'imagine que c'est le contraire. T'avais peut-être même des facilités.
Non, moi je dirais pas que j'ai des facilités. Hein. J'ai toujours beaucoup travaillé, tu vois.
Okay.
Mais je pense pas que c'est parce que j'ai des facilités. C'est parce que je mettais du temps à comprendre les choses.
Ouais, je
mets du temps à assimiler tout en cours, et donc du coup j'avais besoin de travailler deux fois plus pour capter le mécanisme, je sais pas, les problèmes, pour avoir mes réflexes à moi. Donc je travaillais, tu vois. Okay. Ouais, en tout cas, mais même dans tout, tu vois, même on verra après dans la musique et tout, tu vois, j'ai charbonne beaucoup, tu vois.
Okay.
En tout cas, c'est comme ça que moi, mes parents m'ont élevé et tout.
Donc c'est ta méthode de travail.
Ouais, moi ma méthode de travail, c'est le charbon.
C'est le charbon.
Ouais.
Tu déconnectes ton cerveau, tu charbonnes.
Ouais, je charbonne, tu vois. Okay. Après, je sais que des fois j'ai travaillé, mais dans la mauvaise direction, tu vois. Maintenant, j'ai appris à travailler efficacement. Bah, tu sais, tu peux travailler à battre vraiment travailler, voilà, comme un acharné sans qu'il y ait des résultats, tu vois. Mais c'est peut-être parce que aussi je travaillais pas dans la bonne direction à ce moment-là, tu vois. Donc ça aussi, c'est important. C'est pas juste travailler à tête baissée dans le guidon, tu vois.
Ok.
C'est travailler intelligemment.
Mais ça, il faut le comprendre, il faut l'intégrer.
Ouais.
Parce que, par exemple, moi, dans mon histoire, j'étais toujours dans le truc de, il y a qu'une façon de réviser, c'est être bête et méchant, c'est lire, relire, réécrire. Et avoir l'intelligence de se dire, il faut que je change de méthode, vraiment apprendre. Déjà, ça montre, comme je dis, une forme d'intelligence. Maintenant, toi, t'as réalisé ça à quel moment?
J'ai réalisé ça tard.
Tard.
Tard, okay. tard. Après le bac, moi, j'ai réalisé ça, qu'il fallait travailler intelligemment. J'ai fait des études de médecine, tu vois.
Okay.
Passé cette première année commune, là, les trucs. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que juste abattre une tonne de travail, apprendre, mémoriser des trucs par cœur et tout, ça a ses limites, tu vois.
Médecine surtout.
Mais surtout médecine. Enfin, on te demande d'apprendre beaucoup de choses par cœur et tout, mais j'ai remarqué que travailler de manière intelligente, savoir ce que toi tu dois retenir, là il faut comprendre le mécanisme logique, comme ça quand t'arrives en face d'un autre problème, tu captes le truc et tout plus facilement. C'est à ce moment-là que j'ai compris ça, tu vois.
D'accord. Ouais. Alors ça c'est intéressant, tu me parles de médecine, comment t'es arrivé, alors pourquoi t'as choisi la médecine déjà?
Moi, mon père il est médecin.
Ok.
Donc on va dire que ça m'a influencé quand même, tu vois.
Okay,
quand j'étais petit, j'allais à son laboratoire, je le regardais travailler et tout, donc j'ai baigné dedans. Et puis, tu sais, mes parents, ils sont un peu à l'ancienne, tu vois. C'est un peu en mode... Bon, mon daron, il est... Enfin, moi, je suis médecin. Enfin, mon père est médecin, donc son fils doit être médecin. Et t'as capté ?
Je vois très bien.
Donc, lui, c'était lui, il voyait ça que comme ça, tu vois. Il n'y avait pas d'autre issue pour moi. C'était...
Bah, surtout que, en vrai, déjà, moi, dans mon quartier, on n'avait pas forcément beaucoup de personnes auprès de qui s'identifiaient. Et même, c'était compliqué pour fils d'immigré de se dire, ouais, on va être avocat, machin et tout, tu vois. Donc, je pense que lui, là, il a peut-être joué la sécurité à ce moment-là.
Je pense qu'il y a ça. Il y a de ça. Et puis, en fait, lui aussi, ça, je l'ai compris, parce qu'après, on a discuté et tout. C'est que lui, pour lui, la seule manière de m'aider, c'était que j'aille en médecine et que lui, derrière, il puisse me faire profiter de ses contacts, son savoir, etc. Tu vois ?
Ah, okay.
C'était ça, en fait, son plan. Mais ça, je l'ai compris tard.
Bah, ça, c'est aussi les parents. Ils t'imposent un truc et ils t'expliquent quand t'es adulte, tu vois.
Tu vois, c'est ça.
Ok. Donc, ça t'a rassuré, ça, le fait qu'ils disent ça?
Après, ouais, à un moment, ça m'a rassuré. Mais c'était récent. Tu parles de ça. On a discuté, je pense, ça il y a un an. Sinon, ouais, c'est très récent.
Ok.
Sinon, pendant tout ce temps, moi, j'étais. Bon, on en reparlera, je pense, mais même mon choix dans la musique et tout. Je pense qu'il est. Pour l'instant, il est même pas encore vraiment au courant, tu vois.
Ok, intéressant.
Okay. T'as peur de la
hagra, toi.
Ouais. Il sait même pas vraiment ce que je fais encore et tout.
D'accord. Ok, de toute façon, on va pas tarder à y venir, mais je veux juste qu'on reste encore un tout petit peu sur ta jeunesse.
Ouais.
Donc, ton quartier, je comprends, voilà, t'es vers Gare de Lyon, c'est plutôt tranquille. Même si aujourd'hui, quand je passe à Gare de Lyon, alors, autant c'est pas le ghetto, mais autant, d'une certaine manière, c'est ghetto dans le sens où c'est très dense, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de gens chelous aussi, surtout le soir.
Ah ouais ?
Ah, la dernière fois, c'est marrant, il y a une semaine, je rentrais d'une presta et tout.
Ouais.
Et il y a un sans-abri qui est complètement bourré, qui vient et veut me prendre ma valise. Une fois, deux fois, je le repousse. Je lui dis, tu veux quoi ? Et en fait, il sait pas ce qu'il fait. Et il me dit, ouais, je veux des chaussures et tout. J'ai pas de chaussures. Et à un moment donné, il met sa main dans son sac. Et je me dis, qu'est-ce qui va sortir? Donc, je me prépare au cas où, tu vois.
Ouais.
Et il sort une bouteille d'alcool. Il me dit, ouais, ça, c'est mieux que t'as, parce que j'avais une bouteille d'eau. Il me dit, ouais, ça, c'est mieux que ta bouteille d'eau. Je dis, vas-y.
Ouais, c'est bizarre.
Il part, il gueule et tout, tu vois. Donc, il y a ce truc-là aussi où toi, j'imagine, tu restais pas tard la nuit comme ça.
Si, moi, je suis un mec de dehors, hein, vraiment. Je t'ai dit, en fait, comme il y avait rien chez moi.
Ouais.
Il y avait pas de play. Il y avait rien.
Et malgré que t'aies des parents stricts et tout, ils te laissaient quand même.
Ouais, je sortais dehors. Après, tu vois, des fois, t'es obligé de dire, OK, ma mère me disait, ouais, reste jusqu'à 20h ou 21h et je débordais. Enfin, on était têtus, tu vois, quand on était petit.
Ouais.
Mais ouais, c'est bizarre, tu dis ça, Gare de Lyon, pour moi, c'est tranquille. En plus, je trouve que c'est assez embourgeoisé, je suis passé il y a pas longtemps.
Je rigole.
Le Dru-Rollin et tout. Moi, j'étais exactement à Le Dru-Rollin, tu vois, rue de Charenton.
Je vois très bien. Ouais. Bah, ça s'est embourgeoisé, oui, mais ça reste un peu particulier.
Ah ouais, un peu
quand
ghetto
même.
Et tout, ah ouais.
Ouais. Bah, je t'invite à faire l'expérience.
Ouais, bah, j'irai.
Ok. Donc, t'arrives en médecine et tout, comment ça se passe?
Ben, ouais, donc, ouais, tu vois, je te dis, je suis mon lycée privé. Ouais. Entre temps, je déménage. Donc, j'étais dans le 12e, je déménage dans le 17e.
Ok.
Wagram et tout, tu vois, dans un quartier un peu plus tranquille. Et donc, du coup, je fais ma seconde dans le lycée Jacques Decourt, tu vois. Ah, incroyable. Parce que je quitte le lycée privé, j'arrive dans un lycée, je quitte le collège privé, j'arrive dans un lycée public. Tu vois, j'avais mes méthodes de travail, truc, machin, liberté, incroyable.
Facilité.
C'était facile, tu vois. Ouais. J'avais le temps de sortir, de faire des trucs. Je pouvais parler à des gos, truc, machin. Okay. Tout était plus simple, tu vois. Je me faisais des potes et tout, machin. C'était carré, tu vois.
Okay.
Et c'était trop carré même pour mes parents. Ils disaient, mais c'est bizarre, tu travailles pas, tout ça et tout, machin. Donc, ce qu'ils ont fait, ils m'ont renvoyé dans mon lycée privé dans le deuxième, tu vois. Parce qu'ils trouvaient que c'était trop facile. C'est pas normal pour eux que j'ai d'aussi bonnes notes, tu vois.
Ah ouais.
Carrément, c'était ça. Je sais, ils étaient un peu... C'était très strict.
Donc, c'est vraiment l'éducation de on t'apprend la vie, elle est dure.
Ouais.
Dès le début.
Dès le début.
Ça peut pas être facile pour toi, faut que tu comprennes que c'est dur.
Mes parents, quand ils aiment pas la facilité, tu vois.
Ouais.
Tout ce qui est facile pour eux, c'est bizarre. Pour eux, il faut vraiment suer pour obtenir quelque chose. Parce que eux, c'est comme ça qu'ils ont.
Ils ont vécu.
Ils ont vécu, c'est comme ça qu'ils ont grandi, c'est comme ça qu'ils ont acquis ce qu'ils ont acquis. Donc, c'est le seul moyen, tu vois.
Mais ils sont arrivés en France ou ils sont nés en France, tes parents?
Non, mes parents, ils sont arrivés en France.
Ils sont arrivés en France. Ouais. Donc, c'est pour ça aussi qu'ils ont ce truc. Ils savent très bien et donc ils te préparent quand ils font ça en réalité.
Ouais,
tu
c'est
vois.
Ça. Et donc, j'arrive dans le 17e, je repars dans mon lycée privé, ça passe bien, j'ai mon bac et tout. Et comme je t'ai dit, mon père est médecin. Moi, j'ai grandi dedans. Voilà, il me fait pas un lavage de cerveau, le mot est fort, mais t'as compris, il est installé dans ma tête, tu vois.
Okay.
Il est installé dans ma tête. Okay. Pour moi, il n'y a qu'une seule option possible, c'est médecine.
Okay.
Tu vois, il n'y a que ça. Donc, je me lance dedans sans même savoir trop si j'ai envie. Mais à ce moment-là, je ne me pose pas trop la question, tu vois.
Mais il te dit quoi?
Non, mais il ne me dit rien, en fait. Il m'a tout dit déjà quand j'étais petit, tu vois. Ça veut dire que c'est comme si j'arrivais, il n'y avait que ça comme option.
Il t'a préparé sur le long terme.
Ouais, il m'a préparé sur le long terme. Il a fait le projet, c'est pas un projet Mbappé, mais t'as capté. Tu vois, c'est pareil.
Ok. Et donc, t'arrives en médecine à ce moment-là.
Ouais.
Tu vois que c'est le rush, tu vois qu'il y a du taf.
Médecine, c'est.
Il n'y a plus de facilité, là.
Non, médecine, c'est trop.
Juste un genou, déjà, il faut un mois de cours, quoi. on connaît un peu, tu vois.
Médecine, c'est complexe. Après, je suis arrivé là-bas. C'est bizarre, la médecine, parce que, à la fois, j'en ai des mauvais souvenirs. Parce que, je travaillais énormément. Il y avait la pression, le stress. Il n'y avait pas les résultats qui allaient avec.
C'était où?
C'était Pierre et Marie Curie, moi. Moi, j'étais là-bas. Dans le 13e.
C'est quand même réputé là-bas.
Ouais, c'est réputé. Beaucoup d'étudiants, je crois, on était 2000 et quelques.
Énorme.
Donc, tu vois, en vrai, y avait du monde, pas beaucoup de places. Je crois qu'il y avait 300 places sur 2000 personnes, tu vois.
Ouais, c'est énorme.
Ouais, c'est médecine, en vrai. C'est la guerre, hein, c'est la jungle. Et à côté, j'ai rencontré mes meilleurs amis actuellement aujourd'hui, tu vois.
Souvent, c'est ça.
C'est une dinguerie.
Tes meilleurs potes, c'est les gens que tu rencontres à la fac.
Ah, c'est la fac. Je t'ai dit, à la fac, nous, en fait, même quand on nous parle de médecine avec mes potes, des fois, on retourne un peu en arrière et tout.
Ouais.
On en garde des bons souvenirs parce qu'on faisait trop de conneries.
Ben, c'est le moment de balancer. Il y a prescription, là, j'imagine.
Ah, je t'ai dit, on faisait des conneries de fou. Ouais, on a des bons souvenirs de médecine par rapport à ça, alors que d'autres, tu vois, pour eux, médecine, c'était l'enfer, tu vois.
Ouais, bah oui, j'imagine.
Et même, bah, après, on comprend pourquoi on n'a pas réussi, tu vois.
Après, tu vois, t'arrives à la fac. C'est là où il y a un problème au niveau du système scolaire, je pense. C'est que t'arrives à la fac, on te dit, t'es un adulte, parce que tu dois te débrouiller tout seul. Alors qu'on t'a toujours assisté de la maternelle jusqu'au lycée. Et après, t'arrives à la fac, on dit, écoute, tu dois te débrouiller tout seul. Tu vas en cours si tu veux, tu prends les notes si tu veux, tu révises si tu veux, après tu te débrouilles si t'as l'examen. Et sauf qu'à la fac, c'est le moment où tu rencontres du monde, où tu rencontres des meufs,
bah
où tu rencontres
si,
et t'as les soirées, t'as les machins, et en plus, il y en a, ils vivent dans leur propre appart pour la première fois. Donc, c'est tout ce truc-là qui fait que.
Franchement, si t'es pas concentré, tu peux te perdre très facilement à la fac.
Mais c'est pour ça qu'au bout de, même pas la fin du premier semestre, t'as déjà la moitié qui a disparu.
Bah ouais.
Alors on a vu des gens, des amphis remplis le premier jour et puis au bout de 3 mois, il n'y a plus personne.
Ah, c'est dur.
Et oui, et donc, t'as fait, raconte-nous une ou deux petites conneries que t'as pu faire.
Oh, il y en a trop. Non, il y en a une qui nous a bien amusé sur l'année. En fait, à un moment, on a découvert les sous-sols de la fac, tu vois.
Ok.
On a découvert les sous-sols de la fac. Et là, c'était exceptionnel. Le soir, on restait à l'habit, on faisait la fermeture, on faisait du 9h, 22h. Et on mangeait à peu près vers 20h, tu vois.
Mmh.
Et de 20h à 21h ou 20h, 20h30, tu vois. C'était notre pause, entre guillemets.
Okay.
On allait dans les sous-sols de la fac, là. Et là, on faisait une chasse à l'homme. Gros, c'était une dinguerie.
Vous étiez combien à faire ça?
Au début, on était genre 5, tu vois.
Ouais.
Et petit à petit, ça a commencé à prendre en... Ça a commencé à prendre, tu vois. Non, mais parce que les gens, ils ont commencé à en entendre parler. Après, ils se sont dit, vas-y, ça a l'air pas mal comme petite pause et tout. Mmh. Tu sais, on passe à autre chose et tout. Et en plus, à ce moment-là, on n'avait pas le droit. Il y avait un mec de la sécurité, tu vois, qui captait. Donc, en plus de faire la chasse à l'homme avec nos gars, nous, on faisait la chasse à l'homme avec le mec de la sécurité. C'était... En vrai, c'était des beaux souvenirs, tu vois.
Mais comment vous avez fait pour trouver les sous-sols?
Franchement, on était des petits cons, en vrai. Hein.
Vous êtes curieux,
on était curieux, on galérait. Au lieu d'aller travailler, tu sais, on savait qu'on devait aller réviser, mais à la fin, on était, bon, vas-y, venez. Ouais, on se perdait, en fait. Franchement, on se perdait et.
Tu me dis, on se perdait, mais en réalité, heureusement qu'il y avait un peu de ça aussi, parce que si tu déconnectes pas, tu pètes un câble.
Non, c'est vrai, c'est important.
Tu pètes un câble.
Ouais, moi, j'aurais craqué, hein, s'ils étaient pas là. J'aurais craqué parce que même déjà le soir, quand tu rentres tout seul et tout, tu prends le métro, là, d'un coup, ça retombe, tu commences à retourner dans le stress, tu commences à te dire putain, il faut que je révise ça, il faut que je révise ça, je vais pas le faire, ça va pas réussir, ça va pas le faire, tu vois.
Ouais.
Mais tu reviens le matin, tu vois tes gars, tu rigoles, ça passe mieux en vrai, tu vois.
Et t'as dit que t'avais arrêté, ça veut dire que finalement, t'as fait quoi? T'as fait un an?
J'ai fait, ce qui s'est passé, donc j'ai fait deux ans en médecine. La première année, j'ai redoublé, tu vois, et tu sais, quand tu fais, en gros, on appelle ça première année commune aux études de santé, tu vois, PACES. Et dans cette première année commune à ces études de santé, tu as le choix entre médecine, pharmacie, sage-femme et dentaire, tu vois.
Ok. D'accord.
Et ce qui diffère de ces quatre spécialités, c'est une matière que tu prends, tu vois, à la fin,
okay,
dans ton cursus pour te dire si, soit tu vas en médecine, soit tu vas en pharma et tout. Et moi, en fait, j'étais que en mode médecine.
Okay.
Donc, je ne voulais pas entendre parler de dentaire, ni de sage-femme, ni de pharma et tout, tu vois.
Ouais.
En tout cas, en première année. Ensuite, en deuxième année, j'ai commencé à m'intéresser un peu aux études à la branche pharmacie, tu vois.
Mm-hmm.
Je commençais à m'intéresser un peu, ça m'intéressait, les matières en tout cas que j'étudiais dedans étaient cool. Et donc, je me suis dit, bon, bah, en fait, pourquoi pas, je vais prendre l'option pharma, tu vois.
Ok.
Et.
Ça paye bien pharma en plus.
Ouais, pharma, c'est cool en vrai. En tout cas, à ce moment-là, c'est dit, moi, j'étais dans le truc. J'étais dans le train pour finir salarié, truc, machin, ouais, tu vois. Donc, en vrai, pharma, ça m'allait aussi, tu vois.
Ok.
Et donc, je me dis, je vais faire pharma et. Et je rate pharmacie à, je sais pas, 30 ou 40 places, tu vois.
Ok.
Donc, pareil, là, après, je tombe en dépression. Pas dépression, mais je me dis, putain, c'est la merde. Ouais. J'ai raté pharma. Franchement, plus, j'aurais préféré arriver 2000e. Et tu vois, me dire, j'ai loupé pharma. Là, je suis arrivé, okay, 500 et quelques à 40 places. Ouais. Je l'ai pas. L'été, il était dur.
Et ton père, il en pense quoi?
Ah, attends, ça arrive. Déjà, je redouble. J'avais jamais redoublé et tout. Mon daron, déjà, c'était une dinguerie que je redouble. Tu vois, il me parlait vite fait. Il commençait à trop m'adresser la parole et tout.
Il disait quoi quand tu dis
rien? Il me disait rien. Il me disait, ah ouais, travail. Il me disait juste travail, tu vois. Il y en a, ils réussissent. Pourquoi pas toi, tu vois?
Okay.
C'était juste ça, tu vois. Pas beaucoup de mots, mais des mots qui blessent,
ouais,
tu vois. Et donc, voilà, je redouble. Bref, je loupe pharma. On a les résultats à peu près vers mai, juin, un truc comme ça. L'été, il est dur. Mon père, il commence à me dire, bon, on va essayer de voir. Peut-être on va essayer de voir en Roumanie, truc, machin. Tu sais, ah ouais, y a cette option de Roumanie, bah, d'aller faire ses études, la suite de ses études en Roumanie et tout.
Je savais pour la Belgique ou le Canada,
ouais,
mais la Roumanie.
Bah, on a tout essayé. Belgique, Roumanie. On a essayé même Hongrie.
Wow,
je t'ai dit, là, je t'ai dit, j'en parle, mes potes, ils savent même pas. les mecs, je suis allé jusqu'en Hongrie.
Ah, je suis mort.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, il y avait plus trop d'options. Il y avait que ces options-là, Belgique, mais c'était compliqué parce que je sais plus pour quelle raison, mais en tout cas, avec moi, à mon niveau, je pouvais pas. Il fallait que je redouble. Enfin, je crois que c'était, je sais plus pour quelle raison, mais c'était compliqué, tu vois. Donc, je suis parti en Roumanie. On m'a parlé de la Roumanie et tout. La Roumanie, il fallait juste en gros payer et c'était bon, tu vois.
Ouais.
Mais mon père, il m'a dit, vas-y, va quand même là-bas. Regarde si tu peux, si la ville, elle te plaît ou si ça va, tu peux rester là-bas,
ça
tu
va.
Vois.
Il est dur, mais quand même, il y a.
Ouais, il est dur, mais il est humain quand même.
Il reste un truc.
Il y reste un peu du, tu vois. Donc, je vais là-bas 5 jours. Je dis, non, c'est pas possible, je peux pas rester en Roumanie et tout, c'est trop. Il y a rien à faire. Enfin, tu sais, j'allais pas vraiment m'épanouir. Peut-être que j'aurais pu prendre médecine et tout, mais médecine pour après revenir ici, c'est compliqué, tu vois.
Ouais, je vois.
Il me dit, vas-y, bon, on va voir en Hongrie comment ça se passe. Je vais en Hongrie. Non, c'est encore pire. Je me dis, non, c'est pas possible. Et tout, je reviens. Il me dit, bah, il n'y a pas de solution. Pour lui, il était défaitiste. Il se dit, vas-y, ça y est, ça a raté maintenant, tu vois. Je sais que dans sa tête, il se disait ça, c'est sûr. Ma mère, elle essayait de me rassurer un petit peu. Moi, j'étais en dépression. L'été, j'ai rien fait. Je suis allé nulle part.
Okay.
Et à ce moment-là, je me dis, bon, il faut que je fasse quelque chose quand même. La rentrée, elle arrive. Là, je sais pas, on est le 1er septembre. Hein. J'ai toujours rien. Je regarde un peu ce qu'il y a comme possibilité et je vois qu'en vrai, je peux rejoindre la deuxième année de chimie. La deuxième année de chimie à Pierre et Marie Curie, tu vois.
Okay.
Je me dis, bon, j'aimais bien pharma, je vois, il y a de la chimie, je me dis, vas-y, en vrai, je vais voir ce que ça donne, tu vois.
T'as regardé Breaking Bad.
Voilà, tu vois. Je me dis, bon, peut-être qu'il y a de l'argent à faire là-bas. Mais en vrai, je me dis, bon, c'est la seule option, en vrai, qui m'intéresse, okay, tu vois. Donc, je vais là-bas, je rejoins la deuxième année. Et heureusement, je suis avec un pote à moi, Jérémy. Et puis, vas-y, on serre les coudes et l'année, elle passe ric-rac, tu vois, difficilement. Je travaille pas du tout. J'ai rien à faire, mais j'ai pas d'argent. Ça veut dire que même quand je demande de l'argent à mes parents, c'est mort, tu vois.
Ouais,
t'as raté médecine, t'as raté truc, machin, t'auras zéro. C'est-à-dire, à côté, je suis obligé de travailler, tu vois.
Débrouillardise.
Ouais, je trouve un job chez KFC à ce moment-là.
C'est la première fois que tu taffes.
Ouais, j'avais déjà travaillé. J'avais fait, au moment du bac, je crois, je sais plus en quelle année, mais j'avais fait. J'avais travaillé dans le laboratoire central de la préfecture de police.
Okay.
Parce que ma mère, elle travaillait là-bas. J'ai eu un plan et tout. J'ai travaillé un mois là-bas. Ensuite, Je crois, 2 ans après, j'ai travaillé en tant que secrétaire médical aussi, juste l'été.
Okay.
Tu vois, je faisais des petits boulots à gauche, à droite et tout, tu vois. Mais là, il me fallait de l'argent dans les poches, tu vois, et c'était compliqué.
Donc là, c'est
même, j'avais du temps parce que je travaillais pas, tu vois.
Ouais, okay.
Dans ma tête, je voulais même pas travailler et tout. Il fallait même pas parler de chimie et trucs, machin, tu vois. J'y étais juste pour que je sois scolarisé encore.
Ok, je capte.
Donc, j'avais un peu de temps et j'ai pris ce taf, comme je t'ai dit, chez KFC. Et puis voilà, je fais mes deuxième année, je crois que je passe deuxième année, je fais ma licence là-bas. Après, je fais mon master aussi là-bas.
Quand même.
Ouais, après, tu sais, j'étais vraiment dans le train.
Ça veut dire qu'après, t'es, parce que je sais que t'as fait un peu avant de faire ce que tu fais aujourd'hui, donc t'es rentré dans ça, en fait.
Ouais, après, je suis rentré dans ça.
D'accord.
Je suis rentré complètement dans ça. Je me suis laissé guider, tu vois. J'aime pas trop essayer de réfléchir. En vrai, bon, première année, deuxième année. J'ai fait deuxième année licence, master 1, master 2. Et puis après, j'ai fait un autre master aussi pour en marketing pharma. Et après, j'ai travaillé, tu vois.
Ok, très bien. Eh ben, écoute, ça a duré combien de temps à peu près, ça?
Ça a duré 4 ans.
Quand même. C'est-à-dire que vraiment, t'avais une expérience pro, t'étais en place.
Moi, j'étais fait programmé pour être à un moment salarié et tout, tu vois.
D'accord. Donc, ton père, en vrai, après, bon, pharma, il était quand même fier de toi, il était content.
Je sais pas s'il était, lui, c'était petit, c'était médecine ou rien, tu vois. Mais en fait, il avait un plan pour chaque enfant. Ça, c'est spécial, tu vois. Oui, moi, c'était ça. Je sais que ma sœur, qui a fait, tu vois, elle a fait ses études à Londres et tout. Elle, son plan pour lui, il voulait qu'elle fasse de la politique, tu vois.
Okay.
Mon autre sœur, il voulait qu'elle fasse avocat. Tu sais, il avait un plan pour tout le monde, tu vois.
Ah, c'était un vrai plan.
Non, c'était...
Ok, d'accord. Donc, on comprend que quand même 4 ans dans la pharma et tout, c'est quelque chose. Qu'est-ce qui se passe après? C'est quoi le déclic?
Mais déjà, je t'ai dit, en médecine, en fait, il faut revenir un peu en médecine. J'avais rencontré, du coup, mes gars.
Ouais.
Et j'avais rencontré, dont Daniel, tu vois, j'avais rencontré, qui est mon gars encore aujourd'hui, mon frérot et tout. Et tu vois, lui, il
qui
était...
Qui est rappeur, hein, Daniel.
Rappeur, ouais, c'est ça. Artiste, même auteur, compositeur, interprète, faut tout dire, tu vois.
Faut aller voir sa chaîne YouTube.
Ouais, faut y aller, vraiment, allez-y. Même, il fait des lives un dimanche sur deux sur Twitch.
Comment faire une... Enfin,
il fait des sons de A à Z, franchement, c'est terrible, tu vois. Il y a eu plein d'invités, etc. Franchement, allez-y. Et puis voilà, il a fait sa maroquinerie.
Bien.
Il fait la Gaieté Lyrique le 9 mars aussi.
Bien.
Donc franchement, je suis trop content pour lui.
Bien, j'espère le recevoir aussi, pourquoi
pas. J'espère, pourquoi pas, bientôt. Mais donc je le rencontre, Daniel, en étant en médecine, tu vois. Et c'est lui, tu vois, en vrai, qui m'a mis dans la musique un petit peu, tu vois. Okay. Parce que lui, il faisait ses prods, en fait.
Ah.
De base, il faisait ses prods dans son coin. Je me rappelle, il avait son petit home studio. On appelle ça le KGB, tu vois.
Il avait quoi? Il avait des matelas usagés.
En fait, je crois que c'était un. C'était, tu sais, dans les appartements, souvent, il y a une petite pièce qui sert de.
KGB, là.
Ouais, c'est ça, de vide, un peu un vide-grenier, tu vois, où vraiment il y a des habits, tu sais pas trop ce qui se passe et tout. Lui, il a mis quoi? Il a mis une table, des enceintes et son ordinateur, tu vois, avec la carte son. Et il a commencé à, il faisait ses prods depuis, au moment où il me dit ça, il faisait ses prods déjà depuis 2 ans, tu vois.
Ah oui.
Et il a de la musique depuis longtemps, tu vois. Même il a fait le conservatoire et tout, tu vois. Lui, il était vraiment, c'est un musicien, tu vois.
Ok, lourd.
Donc, il commence à m'inviter un peu chez lui et tout. Il me montre un peu comment il fait ses prods. Moi, je le regarde faire. En fait, moi, juste, je le regarde faire, tu vois. Et on discute, on parle musique et tout. Tu sais, vraiment, il commence à me montrer ça. Et puis, bon, lui, ça commence à se passer. Il fait ses trucs, etc. Et puis, petit à petit, il a des sessions studio. Il se lance en tant qu'artiste. Donc, du coup, je le suis, tu vois, dans son chemin qui mène à la musique. Même, il y a même des sons qu'on a ensemble, mais ça sortira jamais.
C'est les premiers sons,
ça sortira jamais. Ouais, on posait et tout. Mais en tout cas, c'est lui, tu vois, qui met vraiment le pied à l'étrier, tu vois. En tout cas, je commence à m'intéresser un peu à la musique. Je commence à faire attention aux prods. Je commence à faire attention à des petits détails que, avant, quand j'écoutais la musique, vraiment, je l'écoutais comme ça, tu vois.
Ouais.
Et après, avec Dani, je commençais à faire attention à quelques détails petit à petit, tu vois.
D'ailleurs, ça m'amène à une question. C'est, comment te poser cette question-là? Comment on développe son oreille musicale?
En vrai, c'est, comment on développe? Franchement, c'est à force d'écouter. Moi, je sais que j'avais pas forcément cette oreille-là, tu vois. Mais parce que je savais pas ce à quoi je devais faire attention quand j'écoutais de la musique aussi, tu vois. Je savais pas. Moi, j'écoutais de la musique, j'écoutais, tu vois, un kick, un snare. Je t'ai dit, jusqu'à ce que je rencontre Daniel, je savais pas ce que c'était, moi. Kick, snare, basse, 808, truc, machin, FX, truc.
Okay.
Je savais pas, tu vois.
D'accord.
Donc, déjà, j'ai commencé à apprendre un peu ce que c'était. Et puis, ce qui m'a aidé, c'est de voir un peu la construction des sons aussi, comment lui, il construisait ses morceaux. Donc là, j'ai compris. Et puis après, tu vois, quand tu écoutes des sons, tu dis, ah, là, il a mis ça comme lui, il a mis. Mmh. Là, il a fait ça comme ça. Ah, c'est pour ça, il a fait ça, tu vois. Mais c'est sur le long terme, c'est petit à petit.
C'est du mimétisme.
C'est du mimétisme. Okay, exactement. Alors, en tout cas, c'est comme ça que j'ai commencé. C'est comme ça que j'ai fait, tu vois.
D'accord. Donc en fait, tu baignes depuis plus de 4 ans dans la musique.
Ouais, sans vraiment le savoir, tu vois. Sans en tout cas, sans me dire que un jour j'allais rentrer dans la musique, tu vois.
Ok, là, c'est vraiment du pur kiff.
J'y allais par kiff, exactement, par passion, par kiff, parce que j'aimais trop les sessions studio. Et ça, il le savait, tu vois.
Ouais.
C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il avait des sessions, il m'appelait, tu vois. Et puis, je pense que aussi, il aimait bien être avec ces gars. Il n'y avait pas que moi. Hein. Il y avait Hakim, Jérém, Dalil, tout le monde, tu vois. Mais l'esprit d'équipe qu'on avait, etc., le retrouver au studio, je crois, il aimait bien ça, tu vois. Lui, ça lui faisait du bien. De temps en temps, tu vois, pas tout le temps, mais de temps en temps pour composer et tout.
Ok, donc c'était, il puisait aussi sa force dedans. Ouais, autant des fois, il avait besoin de tranquillité pour être inspiré et tout, autant des fois, il avait besoin de monde.
T'as capté, c'est ça.
Ok, lourd.
Et donc, et puis il est très pédagogue aussi, t'as vu, il t'explique et tout, comment il fait des trucs, etc., ouais. Tu vois. Même ça se voit dans ses contenus et tout, tu vois, il explique bien tout ça. Donc moi, franchement, j'ai bu toutes ses paroles à ce moment-là, en tout cas au début. Ouais. Après, j'ai commencé à m'intéresser tout seul, tu vois, je commençais à regarder des beatmakers, des compos, comment ils faisaient, etc., ouais. Pour construire leur musique et tout. Et puis, voilà.
Alors, moi, j'ai besoin de comprendre, ouais, quand tu décides d'arrêter la pharma, tout de suite après, tu te dis, vas-y, je me lance en tant que beatmaker.
En fait, moi, j'ai fait les trucs à l'envers un peu. Parce vas-y. Que, genre, comment ça s'est passé exactement? Ça s'est passé, ouais. En gros, bon, moi, à ce moment-là, je suis en contrat dans un laboratoire pharma, tu vois.
Ouais.
En tant que chef de produit marketing. Okay. Je suis là-bas et tout. Puis je me rends compte que... en fait, je voulais vraiment ce poste. Tu vois, je voulais vraiment ce poste et tout. Puis après, une fois que j'ai ce poste-là, je me rends compte que non, en fait, je ne peux pas passer toute ma vie là-bas. Ce n'est pas possible.
Ouais. Ce
n'est pas possible. Et puis je t'ai dit, moi, je suis avec Daniel tout le temps. Le soir, en fait, ce qui se passe, c'est que le soir, je suis en session. Jusqu'à des 3-4 heures, 9 heures, boum, je suis au boulot, tu vois.
Ah oui.
Ça m'a fait ça 2-3 fois, tu vois. 9 heures, je suis okay. Au boulot et tout. Et puis, je vois le contraste. Tu vois, la vie de studio, comment eux, ils kiffent et tout quand ils sont au studio. Même si c'est difficile, il n'y a pas d'argent. On ne parle que de passion, tu vois.
Ouais.
Ils sont heureux, ils sont bien comme ça, tu vois.
Et ça veut dire qu'en fait, entre la journée où tu es dans un taf, tu vois le temps passer parce que tu pètes un câble et la soirée où malgré que t'aies une grosse journée tu vois pas le temps passer et même j'imagine que intérieurement tu ressens pas la même chose, tu ressens
non,
quoi?
Non, pas du tout, je sais pas, je me dis en fait je suis arrivé ici pour mes parents, tu vois, en fait j'ai fait tout ça pour eux,
ouais,
mais ça y est maintenant j'ai mon diplôme, je grandis, tout ça, j'ai la vingtaine passée, je peux pas me dire que je vais travailler que pour eux, tu vois. À un moment, je suis obligé, moi, d'être épanoui moi-même et de faire les choses pour moi, tu vois. Et jusqu'à présent, tous mes choix que j'ai faits dans ma vie, je les avais faits pour mes parents, tu vois. J'avais travaillé pour eux, j'avais fait ça, médecine, au final, je l'ai fait pour mon daron. Ouais. Ouais, maintenant, tu me demandes ce que j'aurais fait, j'aurais jamais fait médecine, tu vois.
Ouais.
J'ai fait tous les trucs pour eux, tu vois.
Donc, c'est la première fois que tu t'écoutes.
Et c'est la première fois que je m'écoute, tu vois. Je me suis dit, ok, en vrai, là, non, je peux pas, tu vois, c'est trop.
Et c'est avec quel âge?
23.
Ok.
Tu vois?
23 ans, tu t'écoutes pour la première fois.
Bah ouais, je m'écoute. Je me dis, non, c'est pas possible. Je peux pas.
Et tu ressens quoi quand tu t'écoutes pour la première fois?
Ah, c'est stressant quand même, hein. Parce qu'en fait, quelque part, ok, je travaille pour mes parents, mais c'était un moyen aussi de remettre les trucs sur eux, tu vois.
Comment ça?
Bah, c'était eux un peu mon bouc émissaire. C'était mes parents, tu vois, en vrai. Bon, bah, si je suis pas ça, mais c'est à cause d'eux. C'est de leur faute.
Ok, tu te dédouanes.
Je me dédouane beaucoup. Enfin, je disais que je faisais les choses pour eux, ouais. Mais quelque part, je pense que ça me rassurait aussi, tu vois. Parce que
tu te dédouanes.
Ouais, c'est ça, je pouvais remettre la faute sur eux facilement, tu vois.
Ah ouais, intéressant. Je trouve ça fort quand même de le dire, de l'assumer, parce que ça prouve que quand même, t'avais cette jugeote-là.
Ouais.
Tu vois.
Beaucoup, beaucoup. Et puis, bon, bah, comme je t'ai dit, à un moment, je me lance dans le vide, tu vois. Je me dis, non, il faut que je m'écoute, tu vois. Et si je m'écoute, faut que je travaille dans la musique, tu vois.
Ok.
En fait, c'était ça. C'est là où j'ai découvert un peu ma passion, tu vois, en vrai. Je me suis dit, en vrai, c'est moi, ma musique, la musique, c'est ma passion, tu vois. Maintenant, comment, tu vois? Mais j'ai cette réflexion. Normalement, les gens, quand ils veulent se lancer dans un business et qu'ils ont un travail, tu vois, à côté et tout, ils ont cette réflexion pendant le travail, ou en tout cas, ils ne quittent pas tout de suite, ils ne démissionnent pas, tu vois. Moi, j'étais bête, tu vois. J'ai démissionné, et ensuite, j'ai eu cette réflexion, tu vois.
Ah, c'est intéressant, ça.
Tu captes, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, j'ai craqué, j'en pouvais plus. Il s'est passé une dinguerie au taf, tu vois. Il s'est passé une dinguerie, en fait, à ce moment-là. J'ai dit, non, c'est la goutte d'eau, tu vois. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Hop, le lendemain, en plus, ça discutait pour me signer en CDI, truc, machin. Le lendemain, je pose ma lettre de démission.
Okay.
Je dis, non, c'est bon, ça y est, moi, j'arrête. En plus, ça peut plus continuer et tout.
Mais attends, c'est ouf, parce qu'en plus, j'allais te poser la question. Genre, combien de temps t'as mis entre le moment où tu t'es dit, vas-y, je démissionne, et tu sais, les premières prises de conscience. Toi, ça a été l'inverse.
Ouais, l'inverse. C'est j'ai ouf. Démissionné parce que, comme je t'ai dit, ça arrive, il y a eu ce truc-là, cette dinguerie et tout.
Ah, ton visage, il change quand tu dis cette dinguerie-là.
Ouais. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? On m'avait demandé, bon, sans rentrer vraiment dans les détails et tout, techniques, mais en gros, on m'avait demandé de faire un PowerPoint et tout pour expliquer, je ne sais plus, une mise sur le marché d'un médicament, etc. Tu vois ? 50 slides, tu vois, le truc. Franchement, je travaille dessus. Jour et nuit, tu sais, je me donne, tu vois, parce que même ça pour moi, parce que ça aurait pu être un moyen de me mettre en avant tout dans le labo, ouais, tout ça, tu vois, c'était un peu une petite opportunité.
Ouais.
Je fais ça et tout. Et au moment de faire la présentation, tu sais, devant l'équipe internationale et trucs machin, je suis pas là, tu vois, je peux pas la faire cette présentation, donc c'est quelqu'un qui l'a fait à ma place, tu vois. Et en fait, ce que j'apprends, parce qu'après, du coup, les slides, elles sont mises dans un groupe et tout machin, tu vois, on peut y avoir accès.
Ouais.
Et j'apprends que en fait j'ai pas été crédité, enfin on a pas mis mon nom.
Ah ouais.
On a pas dit c'est moi qui ai fait le truc et c'est quelqu'un qui s'est approprié mon taf, tu vois.
Ah ouais.
Non, j'ai craqué. J'ai dit ça y est. En plus il m'était déjà arrivé des petits trucs et tout et c'est l'accumulation là, c'était trop, j'ai dit bon, vas-y, salam, tu vois.
Le monde du travail.
Ouais, c'est le monde du travail.
Mais tu penses que c'est différent dans le monde du beatmaking ou de la musique en général?
Non, bah c'est là j'ai compris que c'était pareil. C'est pareil, mais la différence, c'est qu'il y a la passion, tu vois.
Ouais.
Donc, bon, bah, ça m'arrive, j'ai des galères au début, mais ça ne va pas m'empêcher de continuer, tu vois, parce que je suis passionné et vas-y, en vrai, il faut passer par là. Et bien même sûr. Quand tu écoutes les plus grands beatmakers, les plus grands artistes, les plus grands directeurs artistiques, producteurs, ce que tu veux, il leur est arrivé des galères au début, tu vois. Donc, c'est le chemin, tu vois.
Bien sûr.
Même toi, en vrai, ça se trouve, avant d'en arriver là, il t'est arrivé des trucs,
évidemment,
tu vois.
Évidemment, il m'arrive encore des trucs, tu vois.
Et même, c'est ce qui rend un peu, ce qui fait du charme à ton parcours, au parcours. Donc, bon.
C'est réel.
Sauf que j'avais pas de passion dans mon ancien travail, tu vois. Donc, quand t'accumulais des conneries, des dingueries comme ça, moi, ça me.
Ouais.
Ça, tu vois.
Il y a une phrase qui m'avait tellement fait. Qui m'avait une claque, c'était t'as autant de chances d'échouer en faisant un truc que t'aimes pas que d'échouer dans un truc que t'aimes. Donc autant faire le truc que t'aimes.
Exactement.
Tu vois.
C'est une bonne phrase.
Ouais, c'est une très belle phrase. D'ailleurs, tu vois, elle est revenue alors que ça faisait des années que je l'utilisais plus. Donc t'arrives dans la musique. Enfin, tu mets combien de temps pour te lancer en vrai entre la démission
Je démissionne, puis je commence à réfléchir. Je me dis bon, en vrai, qu'est-ce que je peux faire et tout. Et puis en vrai, naturellement, je pense au prod. Hein. Je pense au prod et juste j'évalue un peu. Je me dis, bon, comment ça se passe, tu vois? En vrai, il faut quoi? Il faut juste un ordinateur. Après, je télécharge. Moi, je suis sur FL Studio, tu vois. Je télécharge ce logiciel et boum, tu vois. En vrai, ça m'a pris peut-être, je sais pas, 2-3 mois, tu vois.
Okay.
2-3 mois avant de me dire vraiment, je le fais. Et puis, une fois que je l'ai fait, ça y est, c'est parti. J'avais que ça à faire. Chômage. J'ai fait ça jour et nuit, vraiment, que des nuits blanches pour apprendre à bien maîtriser les trucs et tout, tu vois.
Et c'est à ce moment-là que tu te lances sur les réseaux?
Ouais.
En même temps.
En même temps, ouais, il y a eu, ouais, si, c'est en même temps, en même temps.
Okay.
Le moment où je dis, vas-y, un an pour devenir disque d'or, ouais.
Ok, et justement, donc on y vient. Déjà, de se donner un an pour ça, je trouve que c'est vraiment, genre, c'est culotté de ouf.
C'est culotté de fou.
C'est culotté de fou.
C'est maintenant que je m'en rends compte, en fait.
Mais en même temps, c'est ce qui te pousse aussi. Parce que moi, je t'ai vu, j'ai vu quelques vidéos où t'es en studio avec Kerry James. Bon, Daniel, on connaît la raison. Mais Kerry James, tu vois, j'ai vu, je sais plus si j'ai vu d'autres artistes, j'ai plus en tête. Mais en un an, arriver à ce genre de niveau, quand même, rencontrer des artistes comme ça. Surtout que dans quelques réels, t'as dit, ouais, j'ai des opportunités de fou malade et tout. Comment t'as fait?
Franchement, le travail, hein. Tu sais, je te disais, moi, en vrai, j'ai jamais été l'élève.
Qui a des facilités.
Tu vois. J'ai jamais été cet élève-là, mais j'ai toujours beaucoup travaillé, tu vois. Moi, ça me dérange pas de travailler, de charbonner 10, 15 heures en vrai sur des sujets, sur des exercices et tout, tu vois. Donc, en vrai, ce que j'ai fait, j'ai charbonné, j'ai appris tout seul, tu vois. Bien sûr, il y avait toujours, tu sais, Daniel et puis mon entourage.
Bien sûr.
Ilan et tout qui étaient derrière parce que c'est des mecs qui sont. C'est des musiciens, en fait. Tu vois, ils ont fait le conservatoire et tout. Donc, moi, avoir eux comme. Comme backup, comme soutien, tu vois, c'est lourd. Mais on est tellement honnête entre nous que, bah, vas-y, quand c'était claqué, tu vois. Ils n'avaient pas peur de me le dire.
Ouais.
C'est ce que tu fais là, c'est claqué. Ouais. On voit même pas ça, tu vois. travaille encore ton truc, mais c'est des, ils sont pédagogues derrière, tu vois, c'est pas juste ils descendent ouais. en mode c'est claqué et tout.
Super
c'est,
important.
C'est claqué,
ça.
Mais travaille ça, ça c'est bien, garde, mais juste ça, tu vois, travaille, là la mélodie, améliore tes trucs, trucs machin. Mmh. Donc c'est en travaillant comme ça avec eux, tu vois, de jour en jour que j'ai commencé à peaufiner déjà moi mes prods.
Ouais.
Et puis après, derrière, bah, le fait d'avoir aussi partagé ça sur les réseaux, tu vois, ça m'a aidé. Et puis j'ai l'impression que les gens, franchement, les gens, c'est une dinguerie parce qu'en faisant cette vidéo-là, j'aurais jamais cru que les gens, ils allaient m'apporter autant de soutien, tu vois.
Ouais.
Je te jure que j'ai reçu tellement de messages.
De force.
De force, c'est une dinguerie.
Mais surtout
que. Je sais pas, plein de gens, tu vois. Même en vrai, je me rappelle la première vidéo, il y avait le motif, tu vois, qui a répondu.
Ah bien.
Il avait dit, ouais, t'auras même le diamant, tu vois.
Ah,
et
bien.
Derrière, il y a plein de gens, tu vois, que ce soit même des gens moins connus, plus ouais. connus, qui m'ont donné de la force, te soutien. Moi aussi, je suis dans le même truc, je suis dans le même bateau. Et c'est là que j'ai compris qu'en vrai, il y a un tas de beatmakers en France. C'est une dinguerie.
Pour rappeler, le motif, c'est un beatmaker. Il ouais. avec les plus grands artistes. C'est le frère de Chaim.
C'est ça. Chai.
Chai, pardon. Ouais. Enfin, j'ai compris. Chai. Et voilà, donc pour les gens qui ne savent pas.
Et tu vois, il y a plein de gens comme lui, que ce soit dans l'industrie, hors industrie, juste même qui ont apprécié la démarche, tu vois. Et ça m'a fait trop du bien, tu vois, juste de me dire, en vrai, il y a des gens qui soutiennent, etc., de près ou de loin dans la musique.
Alors que tu n'es qu'au début et tu as déjà des gens qui soutiennent.
Ouais,
ça c'est le culot, en vrai, qui parle.
Bah,
enfin, qui parle. Ouais, c'est grâce au culot.
C'est ça, je pense, ça doit être ça. Ou alors, je ne sais pas, tu vois, mais en tout cas, ça m'a vraiment... En vrai, ça m'a motivé, tu vois. Même si c'est... Parce qu'en vrai, c'est quand même pas facile non plus, tu vois. Parce
ouais,
qu'il y avait
sûr.
Des jours, en vrai, je voulais tout arrêter. Je me suis dit, mais en vrai, qu'est-ce que je fais là? J'avais mon salaire et
évidemment.
Tout. J'avoue, même si c'était... J'étais pas heureux, il y a plein de gens qui font pas de trucs qui font pas de métier qui leur plaisent, tu vois.
Mmh.
Et même d'un côté, j'étais même venu jusqu'à me dire que c'est peut-être même un peu présomptueux de ma part.
Ah ouais.
Bah ouais, de me dire que je veux faire quelque chose un métier qui me plaît, tu vois. Je me dis bah quand tu regardes aujourd'hui, est-ce qu'il y a je sais pas, tu vas prendre des gens, il y a des gens qui font des trucs qui leur plaisent pas mais ils le font quand même parce que bah il faut le faire, tu vois.
Est-ce qu'il y a pas aussi le fait de se dire c'est une trop grosse ambition?
Ouais, non, je pense pas que ce soit. Je me suis jamais dit que c'était une trop grosse ambition, tu vois. En vrai, c'est même bien d'être ambitieux et tout, tu vois.
Bien
c'est
sûr.
Juste que bah des fois il y avait des hauts, des bas, tu vois. Des fois j'arrivais pas juste, tu vois, juste, tu sais, parce que moi je travaille grâce à YouTube.
Ouais.
Donc je travaille grâce à YouTube, j'apprenais et tout machin. Et je sais pas, il y a des fois j'arrivais pas, tu vois. Il y a rien qui sortait de bien, aucune
ouais.
prod. Même quand on envoie des prods à des artistes, les artistes, ils répondent pas, truc, machin. Maintenant, je comprends quand ils répondent pas. Mes prods, elles étaient claquées aussi quand j'envoyais
ouais.
des... Parce que moi, j'étais fou aussi. J'envoyais des prods à des artistes. Les prods, elles étaient trop nulles. Donc, tu vois, il y avait aucun... Mais à ce moment-là, je pouvais pas. Enfin, je savais pas, tu vois.
Ouais. Et est-ce que c'est à ce moment-là que t'as posté la vidéo qui dit que souvent, les artistes, vous posez trop de questions, vous hésitez à envoyer une prod à justement un artiste. Est-ce que vous devez sortir tel son ou pas? C'est grave si le son, est-ce que c'est grave si le son il est nul? De toute façon, il y en aura d'autres. Faut prendre des risques.
Ça, c'est après que j'avais fait cette vidéo-là.
Ouais.
Mais c'est exactement ça, tu vois. En fait, les vidéos que je fais, c'est parce que je les ai vécues.
Il y a un raisonnement derrière.
Ouais. En fait, je les ai vécues déjà moi.
Ouais.
Ou à travers mes potes, tu vois.
Mmh.
Et je les vois en studio, comment ils réfléchissent, ou d'autres artistes, tu vois, comment ça se passe un peu en studio. Oui, mais là, typiquement, cette vidéo-là, je l'avais faite parce que moi, j'avais trop peur d'envoyer des prods à un moment, tu vois. Parce qu'en fait, à un moment, je voulais vraiment envoyer des prods. J'envoyais, sans regarder la qualité des prods, tu vois.
Ok. Et juste, tu demandais pas des retours à Daniel?
Je dis, si, mais il y avait un moment où je passais Daniel, tu vois. Ouais. Je lui disais, vas-y. Tout le temps, il me dit non. Je dis, okay. Vas-y, c'est bon, là, j'envoie, j'en peux plus, tu vois. Okay. Et après, j'ai compris, tu vois. J'avais pas de message et tout. Je me suis dit, Belek, je commence à envoyer des prods, elles sont ouais. pas bien. On va commencer à me mettre. On va commencer à me mettre sur une liste rouge ou je sais pas quoi. Je dis, ok, c'est bon, j'arrête, tu vois.
D'accord. Déjà. Mais ça t'a construit ou pas?
Ouais, quand même, ça m'a construit. Mais parce qu'en fait, moi, de base, je suis quelqu'un d'impatient, déjà. Plus, là, je viens de rejoindre un métier difficile en cours de route. Tu vois, il y a des petits qui ont 16, 17 ans, ils sont déjà diamants et tout, machin. Ouais. Donc, quelque part, moi, j'avais, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu cette pression-là de me dire, en vrai, il faut que j'accélère, tu vois, je peux pas perdre de temps. Donc, je sais pas si c'est, à la fois, c'est un moteur, mais aussi, c'est un peu...
Un frein,
tu vois, parce que du coup, à chaque fois, j'avais cette épée de... Enfin, je l'ai encore, tu vois, mais j'ai cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Tu vois, je me dis, en vrai, il faut que j'accélère, je peux pas perdre de temps, truc, machin.
C'est quoi, pourquoi tu te mets la pression?
Je sais pas, en vrai, je suis sûr, je sais pas. En vrai, il n'y a pas de raison, tu vois. Mais c'est.
Tu compares, du coup. Ouais, tu m'as parlé de petits 17 ans qui ont déjà des diamants.
Mais je kiffe, tu vois, parce que je travaille avec ces jeunes-là, tu vois. Okay. Moi, je kiffe trop apprendre des petits, tu vois. C'est eux les geeks, c'est eux qui savent, c'est eux l'avenir, tu vois. Ils m'apprennent trop de trucs. Je suis aussi dur avec des petits, avec Tisco, par exemple, un beatmaker, il est trop fort, tu vois. Ouais. Ces mecs-là, ils sont trop chauds. Je suis avec eux au studio, tu vois, on se complète, on s'apporte des trucs et tout, tu vois. Et je pense que je leur apporte des trucs, ils m'apportent des choses, tu vois. Mais que, comme je t'ai dit, c'est un métier où vraiment, faut vraiment pas avoir, déjà, faut pas avoir trop d'ego.
Ok.
Déjà, je pense, tu vois. Faut pas se dire,
Dans le sens où quoi, tu dis, je vais pas travailler avec un tel parce que.
Ouais, tu vois, comme je t'ai dit, tu vois, cette réflexion-là de dire, bon, c'est un petit 17 ans, qu'est-ce qu'il va m'apprendre, truc, machin. Tu vois, ça passe, je pense, ça marche pas comme ça, tu vois.
J'en ai une spéciale pour toi.
Moi, tu me parles pas d'âge.
Exactement, tu vois. Ouais, vraiment, faut pas parler d'âge dans ce milieu-là, tu vois. C'est des petits, ils sont trop forts, en fait. C'est comme ça, tu vois. Faut l'accepter, faut travailler avec eux et t'apprends avec eux, tu vois. Ils vont t'apprendre des trucs, c'est sûr, tu vois.
Bien sûr.
Et déjà, faut pas avoir d'ego et puis, faut être humble aussi, tu vois, dans ces trucs-là, tu vois. Moi, j'ai l'impression. Et ça reste à sa place.
C'est ça, tu prends de la sagesse. Ouais, voilà. C'est comme dans n'importe quel domaine en réalité. Et ça en est où alors ce
disque d'or? Ouais. Bah écoute, en vrai, quand j'y pense maintenant, en vrai, un an pour ramener le disque d'or.
Quand t'es pas connu, quand tu pars de zéro.
Non, mais déjà, en fait, c'est plus que partir de zéro, c'est quand tu sais même pas faire de prod.
Déjà.
Tu vois? Ouais. Donc, regarde, moi je lance ce truc là, je sais même pas faire de prod, tu vois.
Ok.
Donc en vrai, j'ai dû apprendre à faire des prods. Vas-y, on va dire, ça m'a pris peut-être pour faire des prods. En fait, avant que j'envoie ma première prod, j'ai dû prendre 6 mois, tu vois. Et je te dis même, cette prod-là, elle était pas ouf. Hein.
Ouais.
Elle était pas ouf. Donc déjà 6 mois. Plus après, il faut trouver les sessions studio, tu vois.
En plus.
Avec les artistes. Mais t'es pas connu. Qu'est-ce que tu vas travailler avec un artiste et tout. C'est compliqué, tu vois. Et une fois que t'as cette session-là, faut faire la prod. Faut que l'artiste, il pose sur la prod. Faut que le son, il sorte. Faut qu'après, le son, il fasse ses 15 millions de streams minimum.
Ah oui.
En un an, en vrai, c'est compliqué, tu vois. C'est possible. J'ai pas dit que c'est impossible, mais c'est compliqué. Et bon, bah voilà, tu vois, en vrai, j'ai compris que c'était compliqué d'avoir... Enfin, ça allait être difficile d'avoir ce disque d'or en un an, tu vois. Mais ça, en vrai, je m'en fous, tu vois. C'est pas grave. En vrai, moi, tout ce que ça m'a apporté derrière, tu vois, tout ce que ça m'apporte, déjà même le fait d'être là devant toi aujourd'hui, déjà c'est une victoire, tu vois, déjà après c'est gagné, tu vois.
De ouf.
Je suis devant toi, je parle un peu de moi, du métier de beatmaker et tout, et ça je kiffe de fou, tu vois. Donc déjà merci pour l'opportunité,
bah,
et déjà ça fait plaisir, tu vois. Les sessions qui en ont découlé derrière, ça aussi c'est trop bien, tu vois. Et tous les messages que j'ai reçus, ça m'a fait du bien, ça m'a donné de la force. Et même, tu vois, on propose déjà des contrats de signature, des trucs comme ça. Ça veut dire qu'en vrai, bon bah, même si j'ai pas ramené le disque d'or, c'est pas grave, ça va venir, j'espère, Inch'Allah, tu vois.
Inch'Allah.
Mais tout ce que ça m'a apporté derrière, c'est trop bien, tu vois.
Bah tant mieux, en tout cas, je te le souhaite. Parce que
c'est gentil, merci.
Normalement, quand tu charbonnes, c'est juste le temps qui fait que t'arrives au bout de tes trucs. Vraiment, vraiment. Surtout que toi, en plus, vu que t'utilises comme outil les réseaux, en réalité, c'est qu'une question de temps. Déjà, ouais, tes prods à son meilleur carant.
Ça, tous les jours, on s'améliore de toute façon, tu vois.
Et en plus, il y a un point super important dans n'importe quel domaine, c'est le réseau. Encore une fois, on t'a vu dans des vidéos avec des gros artistes. Ça veut dire que c'est qu'une question de temps. En plus, t'apprends aussi des artistes, j'imagine.
Et énormément, tu vois. C'est trop bien d'être en session. C'est là où, en vrai, j'apprends le plus, tu vois.
Ouais.
T'es en session, faut comprendre un peu l'artiste.
Oui.
Faut savoir rester à sa place, faut savoir parler avec les artistes et tout. En vrai, c'est des mecs normaux, hein.
Bien sûr.
Faut les voir
un peu. C'est des humains. Hein.
Non, c'est des humains, tout se passe. C'est carré, tu vois. C'est,
ah oui.
Même eux, je suis jamais tombé sur un artiste ou une session, en tout cas, qui s'est mal passée, tu vois. C'est très bien passé tout le temps. C'est bien. Après, forcément, le feeling, il passe plus ou moins avec d'autres artistes, tu vois, avec des artistes. Mais la plupart, ça s'est très bien passé, c'était intéressant.
Comment tu te sens le jour où tu vends ta première prod? Parce que ça, c'est une grosse victoire, tu fais quoi?
Mais en fait, nous, on est trop nuls pour célébrer des trucs. Franchement, on l'a célébré vite fait. Enfin, mes potes, ils étaient trop contents pour moi. Okay. Bon, une heure, on kiffe, truc, machin. Puis après, on retourne. Hein. Ouais, franchement, il y retourne, tu vois.
Mais comment ça se passe déjà? On peut savoir le nom de l'artiste ou pas?
Ben, la première prod, je crois, c'est BeatStars.
Ok.
Si j'avais, à ce moment-là, j'avais lancé mon YouTube et tout, j'avais mis mes prods dessus.
Ouais.
Et première vente BeatStars dessus, tu vois, enfin, sur mon YouTube. Et je l'avais vendu, je sais même plus combien. Le son, je crois que c'était un Allemand qui m'a pris ma prod, si je me trompe pas. Sauf que même aujourd'hui, je peux même plus l'écouter, je peux pas l'écouter, tu vois. Mais c'est pas grave, il l'a prise, c'est carré, tu vois, le son il est sorti. Moi, j'étais content à ce moment-là. Après, on retourne au charbon, tu vois.
Super.
Mais c'était cool.
Et aujourd'hui, t'en as vendu combien à peu près des prods?
Franchement, je sais pas. Hein. Si parce qu'en fait, si j'y vends, j'ai continué à en vendre sur BeatStars.
Ouais.
Donc
BeatStars, c'est un site où tu postes tes prods.
Voilà, c'est ça,
etc.
Exactement. C'est une plateforme, une marketplace, ouais. Tu vois, où tu peux mettre tes prods dessus et puis. Et puis voilà, les artistes peuvent venir directement, ils prennent ta prod, tu vois, sans te DM ou quoi. Ouais. Et puis franchement, je pourrais pas te dire comme ça de chiffres, mais je sais pas, peut-être 20.
C'est bien. Franchement, 20, en un
30,
an.
30, je sais pas, ouais, quelque chose comme ça.
Ouais, quand même.
Mais il y en a qui sont pas encore sortis, tu vois, c'est ça. C'est
sûr. Bien sûr. Ok, bah écoute, j'ai ici une vidéo que t'as postée qui parle justement du métier du beatmaking. Okay. Je vais la faire écouter
vas-y,
à tout le monde.
Vas-y, vas-y.
Il y a des artistes signés en Major, Universal, Sony, Warner. Ça veut dire qu'ils ont les Talbins, ils ont la Yaska. Tu les vois dans les clips, ça fait des arcs-en-ciel avec les billets carrément. Mais dès qu'il faut payer les beatmakers, là, il n'y a plus personne, l'argent a disparu. Ouais, y a plus de sous, y a plus d'oseille.
Eh, ils osent négocier les prods à des prix affolants, j'ai jamais vu ça. 50€, 60€ une prod. Moi, je parle des artistes signés, là. Hein. Des artistes signés. C'est une dinguerie. Wesh, ce 50€ une prod, wesh, on est des escortes, nous, ou quoi? C'est quoi, ça? Wesh, les beatmakers, parlez un peu. Eh, moi, ça fait pas longtemps, en plus, je suis dans le milieu.
Donc, y a cette première vidéo, déjà, t'étais révolté, tu vois. Je vois, tu te caches à ta tête.
Ouais, je regarde jamais mes vidéos. Ouais. Une fois qu'elles sont postées, boum, moi je regarde plus, tu vois.
Il y a eu beaucoup de réactions. Rien que sur Instagram, il y a eu plus de 12 000 likes.
Ouais. C'est
quelque chose quand même. C'est-à-dire que les gens, ils sont réceptifs à ce que tu dis.
Bah, je pense que ça a dû parler à plus d'une personne, tu vois. Que ce soit. Ce qui m'a surpris, c'est que ça n'a pas touché que des gens dans la musique en vrai, tu vois. Il y a plein de gens, des photographes, des clippers, des.
Ouais, c'est la même chose.
Tu vois, en vrai, ils ont vécu ça, tu vois. Mais moi, en fait. Je suis quelqu'un aussi spontané des fois, tu vois. Je fais des trucs, comme je t'ai dit, j'ai démissionné, clac, j'ai même pas réfléchi, tu vois. Des fois, je fais des trucs. Là, vraiment, quand j'ai fait cette vidéo, là, je me rappelle, ça m'était arrivé. J'avais eu une discussion avec l'artiste et truc, son équipe. Je sais pas, 5 minutes avant, tu vois.
Ah oui, d'accord.
C'est pour ça que j'étais chaud.
Bah, en parlant d'artiste, on va switcher avec PLK. PLK, c'est pareil. Donc, il a mis une story dans laquelle. Il parle justement au beatmaker. En plus, c'est une story privée, donc pour les proches sur Instagram, qui a fuité pour le coup, parce que quelqu'un a partagé.
Les gars, venons, on se dit un truc, là. Venons, on se parle français, les frères. Venons, des beatmakers, 2 minutes. Hein, les beatmakers, il y en a quoi? Il y en a 6-7 en France. C'est des bons, vous respectez, vous êtes carrés. Mais le reste, arrêtez de nous faire les anciens, frère. Arrêtez de nous faire les anciens, là. Ça y est, il y a une vague, là. Tous les beatmakers, ils font les anciens. Ça y est, ça... 3 semaines, vous êtes sur Fruity Loops, vous nous faites les Timbaland. Arrêtez de nous réclamer des sommes de fou, la tête de ma grand-mère. N'oubliez jamais que pour 50 balles, il y a des carrés, ils vendent des prods. Hein. Moi, pas les mêmes 15 millions de vues, la tête de ma mère, j'ai acheté la prod 50 balles, frère. Ça veut dire arrêtez de faire les cons, il y en a que 10 qui méritent de l'argent. Vraiment des grosses, grosses sommes.
Quand tu tombes sur ce genre de... Après, ça rentre... on n'est pas dans les clashs et tout, mais non, c'est juste pour expliquer le contexte et tout, tu vois. Toi, tu réagis comment quand tu vois une vidéo comme ça?
Moi, déjà, en vrai, la vidéo, elle m'a fait rire. Hein.
Ouais.
Ouais. Quand je sais plus quand est-ce qu'elle sort, mais c'était il y a longtemps, je crois. Hein,
oui.
Mais elle m'avait fait rire. En vrai, elle m'avait fait rire. Après, tu vois, parce que, de toute façon, moi, quand j'avais regardé cette vidéo-là, j'étais pas dedans, tu vois.
Oui.
J'étais pas dedans du tout. J'étais pas dans la musique et tout, machin. Maintenant, en vrai, là, tu vois, en étant beatmaker, je sais pas pour comment il en arrive à dire ça, tu vois. Je sais pas pourquoi, mais. En vrai, il a pas. Bon, il a raison, oui et non, tu vois. En vrai, ça dépend. En fait, ça dépend qui demande. Comment expliquer ça, tu vois? Là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un, on va dire entre guillemets, un beatmaker qui a pas peut-être
d'expérience,
qui a pas beaucoup d'expérience entre guillemets, ou qui est pas multi diamant ou multi platine, tu vois? Qui a dû demander un tarot de fou sur la prod parce que c'est PLK, tu vois?
Ok. Donc c'est vu pas comment le il le dit. De sa prod, c'est plus.
C'est plus par rapport au nom, tu vois. Là, vu comment il le dit, j'ai l'impression qu'il le tourne comme ça. Enfin, que c'est tourné comme ça, tu vois. C'est parce qu'il s'est dit, ah, il y a PLK, vas-y, là, en vrai, on va manger un peu, tu vois. Vas-y, la prod d'habitude, peut-être on la vend, je sais pas, 400 ou 300 ou 400€. Vas-y, peut-être là, vas-y, viens, on essaye 800, 900, tu vois. Peut-être, ça se trouve, c'est ça, tu vois. C'est un truc comme ça. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris.
Ok.
Et là, j'avoue, en vrai, quand c'est comme ça, bon. C'est PLK, même si c'est PLK, je sais pas, il a dû se dire, ah ouais, non, le poteau, il abuse, tu vois.
Bah ouais, je comprends.
Poto, il abuse. Donc, en vrai, je peux comprendre. Maintenant, il faut se mettre à la place du beatmaker. Lui, il a l'opportunité de placer PLK. Peut-être que ça va. Une fois qu'il aura placé PLK, il ne va plus placer de top artiste après derrière. C'est rare, mais c'est possible, tu vois. Il se dit, vas-y, en vrai, c'est mon opportunité de manger. En vrai, on ne peut pas lui en vouloir aussi, tu vois. Il place PLK. S'il ne demande pas, je ne sais pas, 700 euros à PLK, il va demander 700 euros à qui, tu vois.
Ouais.
En vrai, c'est ça aussi. Mais bon, peut-être qu'il aurait pu faire ça autrement et se dire, vas-y, en vrai, je lui laisse. Et comme ça, après, il me rappelle. Je ne sais pas, tu vois, en vrai, c'est.
Maintenant, c'est le culot, en vrai.
En vrai, c'est le culot. Je pense qu'il a testé. C'est pas passé, tu vois. Il serait pu passer. Là, c'est pas passé. Peut-être qu'il était pas de bonne humeur à ce moment-là. Tu vois, il y a ça aussi, tu vois.
Il s'est réveillé sur la vidéo.
Ah ouais, il s'est réveillé en plus.
Je sais pas, il avait l'air.
Bah, tu vois, c'est possible aussi, tu vois. En vrai, c'est un coup de poker. Il a tenté. Okay. Là, il a perdu. Maintenant, en vrai, c'est comme ça, tu vois. Ça peut être. Quand tu vois les prix des prods, il y a des prods, elles ont été vendues à des 2000, 3000.
Bien sûr.
Donc, il a tenté. En vrai, il a raison, hein.
Normal. Ok.
Mais PLK aussi a raison de. Il a pété son. Enfin, pas pété son câble, mais il a remis les choses à sa place, à sa manière. Il a le droit aussi, tu vois. Maintenant, il faut trouver juste un terrain d'entente.
Très bien.
Et aussi, quand tu te compares un peu aux États-Unis, parce que souvent, on aime trop faire le parallèle et tout, tu vois, aux States et tout, machin. Tu vois, même s'il ne faut pas trop le faire, je pense. Mais quand tu regardes un peu les prix des prods et tout aux States. Bah, tu vois des prix dérisoires, tu vois. Mais parce que c'est pas le même système, tu vois, c'est pas pareil.
Tu vois, on prend l'exemple de Dr. Dre qui connaît tout le monde. Lui, il a déjà vendu des prods à 500 000 dollars, mais c'est parce qu'il faisait du sur-mesure. Et il l'a expliqué dans une vidéo, il a dit, aujourd'hui, tous les beatmakers, ils balancent leurs prods sur les réseaux, sur YouTube et tout. Tu m'étonnes qu'après, tu vends ça au lance-pierre. Alors que eux, c'était de la pressance, c'était du sur-mesure, c'était en plus avec des instruments, tu vois. Ariane Leslie, qui est un artiste, qui est un chanteur, compositeur, tout ce que tu veux. Le mec, il fait du beatmaking, mais il faut aussi de l'instrument.
Bah, c'est ça.
C'est normal, après, que ces prods ne coûtent pas le même prix, tu vois.
Coûtent pas le même prix. Et puis, y avait la rareté aussi, tu vois.
Bien sûr.
Le fait de faire des sessions. Mais maintenant, faire des sessions, ça change rien. Tu fais des sessions, ça va pas augmenter le prix de ta prod, hein.
Ouais.
En vrai, tu vois. Non, ça va pas
ça,
augmenter.
Ça, c'est du vécu, ça.
Non, ça va pas augmenter le prix de ta prod. Mais juste, en fait, je pense à notre niveau, en tout cas à mon niveau, les trucs comme ça, faut être un peu plus intelligent, tu vois. Moi, demain, il y a PLK, il vient, il prend ma prod. Et tu vois, je vais lui donner ma prod, enfin je vais lui passer ma prod. En fait, il faut être malin, tu vois. Il prend ma prod, en vrai je sais qu'il demandera jamais un truc gratuit, mais même imaginons ça arrive, faut regarder derrière ce que t'as à gagner aussi, tu vois.
Bien sûr.
Ça va te donner un peu de visibilité derrière, on va te rappeler. Donc tu vois, là à ce moment-là, j'ai pété un plomb parce que c'était trop, tu vois. C'était les négociations qui m'ont énervé,
ouais,
tu vois.
Mais c'est ça, c'est la grosse part.
C'est ça, les négociations, le fait qu'on ne respecte pas, parce que tu vois, c'est tout ce truc-là, c'est tout.
Tout ce qui est autour.
C'est tout ce qu'il y a autour, tu vois.
Et ça, il ne faut pas négliger.
Et ça, c'est important, tu vois. En vrai, c'est.
80%, ouais.
Bah ouais, c'est beaucoup, tu vois, c'est trop.
D'ailleurs, en parlant de prod, Kershak, c'est comment?
Kershak, oh là là, ouais, ça aussi, c'était une de mes. Pas de mes bêtises, mais une de mes folies. Je sais plus, on était en séminaire pour Daniel.
Ouais.
À un moment, j'ai cette idée-là, je me dis, vas-y, en vrai, parce que j'écoutais, tu vois, et j'aimais bien, il y avait un son qu'il avait fait, je kiffais et tout. Je me suis dit, en vrai, vas-y, je vais essayer de tester ça, tu vois, une prod par jour et tout, jusqu'à ce qu'il place. Et c'en est arrivé où franchement, ça a été pareil, ça aussi, ça a été bien reçu, tu vois.
Okay.
Au début, je crois que les prods... mais pareil, tu vois, j'ai envoyé des prods. Les prods, je pensais elles étaient bien, mais c'est après avec du recul. Quand je regarde, quand je suis retourné sur une vidéo, la prod, en vrai, mais jamais Kershak il pose dessus, tu vois. Tu vois, jamais il pose dessus. Mais il a été gentil parce qu'il likait des vidéos.
Okay.
Et ses équipes, elles sont venues me parler. C'est où ? Elles ont bloqué même des prods, etc. Ça veut dire qu'en vrai, enfin, vers la fin, tu vois, quand les prods, elles ont commencé à être plus quali. En vrai, je pense que ça a été bien reçu dans leurs équipes. Même les gens, ils ont bien. Enfin, en vrai, c'était un truc un peu divertissant, tu vois. Ils n'ont pas trop mal pris le truc.
Et il y a un truc super important qu'il ne faut pas oublier, c'est que maintenant, les gens savent que tu existes. Mmh. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils restent attentifs à ce que tu fais. C'est juste, en vrai, tu ne jamais lâcher, continuer et naturellement, tu vas progresser aussi.
Il y a ça aussi.
Je pense que c'est important de le garder en tête, même pour les gens qui nous écoutent quand on fait quelque chose. Continue quoi qu'il arrive, parce qu'en réalité, les gens t'observent. Tu ne sais pas qui. Mais on t'observe. Ça, c'est important. On arrive bientôt à la fin, là. J'ai deux dernières questions pour toi. Comme je t'expliquais, à la fin du podcast, j'aime bien faire un parallèle avec les cultures urbaines au sens très large du terme. Et c'est marrant parce que je suis tombé sur une interview de JCVD. Tu sais qui c'est, JCVD?
Ouais, Jean-Claude Van Damme.
La base. Et c'était une de ses interviews à l'époque, hein, quand il a sorti son film Bloodsport. D'ailleurs, ce film-là, c'est tiré d'une histoire vraie, donc la sienne. Et je savais pas. Okay. Tu vois. Donc Bloodsport, c'est là où il va, il veut venger son frère qui a été blessé. Il fait un tournoi de combat.
Okay.
Et il dit un truc super intéressant. Il dit, j'ai commencé le karaté à 11 ans, alors qu'à la base, j'ai toujours voulu être acteur. Et c'est pour ça qu'à 20 ans, il est parti aux États-Unis pour se lancer dans l'acting. Sauf que quand il arrive là-bas, il n'a pas de réseau, il ne sait même pas parler anglais. Et il dit, dans le monde du cinéma, aussi bien en France qu'aux USA, personne ne vient vous chercher. Il faut vous construire vous-même et c'est très dur. Et j'ai tout fait, j'ai travaillé sans permis, j'étais illégal dans le pays, je ne parlais pas un mot anglais quand je suis arrivé aux USA et j'ai contacté tout le monde et finalement... C'est la Canon Film qui m'a accroché justement pour ce film-là. La question que j'ai à te poser par rapport à ce que ça m'a inspiré, c'est... Moi, j'ai capté que tu avais compris que personne n'allait venir te chercher déjà de base. Ça, c'est la base des bases. Qu'est-ce que tu veux réellement aller chercher en faisant ça au fond de toi?
C'est une bonne question. C'est me prouver des trucs, moi, tu vois.
Ce serait quoi?
Ben, prouver que je peux réussir quelque chose, tu vois, en vrai. Parce que, comme je t'ai dit, j'ai toujours fait des trucs pour mes darons. Jamais vraiment pour moi, tu vois. Genre, toutes les études que j'ai faites, tout ça, les diplômes. Tu vois, il y en a, même tout le monde dit, ouais, c'est bien, t'as tes diplômes au moins et tout, c'est carré, tu vois. Mais je les vois même pas vraiment comme une vraie réussite, tu vois. En tout cas, je sais pas, j'ai du mal à me dire, bon, bah, c'est un bel accomplissement, tu vois.
Ouais, je capte.
Parce que je l'ai pas fait pour moi et je m'étais pas vraiment écouté, tu vois. Même si je devais m'écouter aujourd'hui, jamais j'aurais refait les études que j'ai faites, tu vois. Donc là, c'est vraiment la première fois, comme je t'ai dit, ou comme tu m'as dit, je m'écoute vraiment, tu vois. Donc je pense déjà juste prouver à moi-même que je peux faire quelque chose que j'ai envie, tu vois. Et même si je pars de zéro, je connais rien au système, mais juste par envie, par passion, et prouver que bah avec le travail, en vrai, et l'envie, on peut tout arracher si on veut, tu vois.
Et c'est quoi ton rêve?
Mon rêve...
Est-ce que t'en as un, déjà?
Moi, je crois que mes parents, ils seraient fiers de moi. Hein.
Donc ça revient à tes parents?
Ouais. Parce que quelque part, on a toujours... moi, j'ai toujours des trucs à prouver, en vrai. Tu vois. Je pense là, il faut que je leur... Parce que je t'ai dit, ils savent même pas ce que je fais, là.
Ouais.
Tu vois, c'est flou et tout, tu
vois. Quand est-ce qu'ils vont savoir quand t'auras ramené le disque d'or?
Même pas, hein. Même pas, je pense. C'est quand... Inch'Allah, Daniel, il fait un Percy.
Ouais.
Tu vois, parce que je suis son DJ aussi.
Ouais.
Donc, peut-être à ce moment-là, tu vois, je leur expliquerai et tout, tu vois.
Ok.
Mais je pense pas avant, ils savent pas que je compose, que je suis beatmaker et tout. Pour eux, juste là, je suis au chômage et je me balade dans la rue avec mon sac à dos. Tu vois, j'essaie de leur dire non, t'inquiète, là, je fais 2-3 entretiens alors que je suis en session, tu vois.
Ok, intéressant.
Bah ouais, parce que je me vois pas leur dire pour l'instant, tu vois. C'est, en fait, mes parents, il faut que je leur amène quelque chose, un résultat, tu vois.
Ouais, non.
Parce que le disque d'or, c'est suffisant, je pense pas. Ça va être autre chose, tu vois. Mais quand j'aurai ce truc-là suffisamment gros, suffisamment big, là, je pourrais leur en parler, leur dire, en fait, à ce moment-là, je faisais ça, maintenant, ma vie, c'est ça. Voilà, que vous l'acceptiez ou non, mais en tout cas, c'est là-dedans que je suis heureux, que je suis bien. Donc voilà. Et puis, bien sûr, ça passe par un peu d'argent aussi, tu vois.
Évidemment, en tout cas, moi, je te souhaite à toi et à tes parents une bonne fin.
Merci.
Je finis avec la dernière question, là. Comme les nègres marrons, si tu devais faire le bilan.
Le bilan?
Ouais.
Le bilan de quoi?
De ce que t'as dit, de ton parcours.
Mon parcours, bah, parcours, on va dire, un peu atypique quand même. Mais voilà, tu vois, motivé par la passion, par l'envie de réussir et de se prouver des choses, mais pas dans le mauvais sens, tu vois, dans le bon sens du terme, tu vois. C'est une bonne pression quand même.
Okay.
C'est vraiment pour y arriver. Et en vrai, avec le travail, moi, c'est vraiment ça qu'on m'a inculqué quand j'étais jeune. Avec le travail, on peut tout faire, on peut tout réussir, tu vois. Et voilà, bien s'entourer aussi, tu vois. Parce que moi, je suis quand même bien entouré, en vrai, tu vois. J'ai mes amis, ils sont là. Et si j'ai un souci, ils seront toujours là. Moi aussi, je serai toujours là pour eux. En tout cas, on s'aide, on s'entraide. On travaille en famille et c'est l'essentiel, tu vois. Et on va tout arracher, Inch'Allah.
Inch'Allah, je te le souhaite en tout cas.
Merci.
Où est-ce qu'on peut te retrouver?
Sur Instagram, Doomsy-JR. Sur TikTok, Doomsy Dealer.
Dealer, comment tu l'écris?
Dealer, D-I-S-L-E-U-R, tu vois. Pas dealer, hein.
Juste préciser.
Ouais, ouais. Et puis bientôt sur Twitch, tu vois.
Ah, lourd.
Bientôt, il y a des choses qui vont arriver, des lives Twitch.
Sur YouTube aussi, bientôt.
Bientôt sur YouTube aussi. Exactement. Et
peut-être
et voilà.
Que d'ici là, quand l'épisode sortira, tu seras déjà dessus aussi. Parce que c'est pas tout de suite l'épisode.
Ouais, c'est possible. C'est possible. Voilà.
Montre que je te le souhaite, force à toi.
C'est gentil, merci. Merci beaucoup.
Ça y est, c'est terminé. Et comme d'habitude, trois choses que je retiens. En un, tu veux un scoop, t'as autant de chances d'échouer dans quelque chose que tu n'aimes pas que dans quelque chose que tu aimes. En deux, tout est une question de décision. Alors considère que faire un choix de carrière pour les autres, c'est faire le choix d'être dans la fuite. Et en trois, le culot t'apportera toujours plus d'opportunités que d'être dans l'attente. On se dit rendez-vous en 2024. La paix sur toi.